RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Une chute au départ, une chute à l'arrivée, encore une étape très agitée sur le Tour de France. Nasser Bouani a abandonné, Thibaut Pinot est tombé aussi et André Greipel s'impose au sprint. Tony Martin toujours en jaune, Cyril Guimard va nous décrypter l'étape à 18h15. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon seront fidèles au poste à 20h avec vous au 32-16. Richard Gasquet est sur le coup en ce moment à Wimbledon, 1-7-0 dans son quart de finale contre Stanislas Wawrinka. Eric Salio et Sarah Pitkovski vont nous faire vivre ça. Il faut venger Gilles Simon dans ce France-Suisse. Simon battu en 3 petits sets par Roger Federer. Jean-Michel Aulas sera l'invité de l'Intégral Tour à 20h30. Le président de l'Olympique Lyonnais vient de prolonger 3 de ses jeunes joueurs jusqu'en 2020. Nabil Fekir, Corentin Tolisso et Anthony Lopez. On va aussi lui parler évidemment d'Alexandre Lacazette et de Johan Gourcuff. François Trinduc doit-il être le buteur du 15 de France pour la Coupe du Monde? Le demi d'ouverture sera notre invité avant 19h. Trinduc, Michalak, Thalès, Cocotte ou Para? D'après vous, qui doit être le buteur des Bleus? Dites-le nous sur Twitter. Hashtag RMC Live. On commence avec le journal des sports. Bonsoir Martial Fernandez.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Et donc la cinquième étape du tour entre Arras et Amiens, comme prévu, un sprint à l'arrivée.
Entre costaud et le plus costaud dans le peloton, c'est André Greipel qui remporte sa deuxième étape sur ce tour après celle de Zélande. On va retrouver Christophe Cessieux à Cambrai. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martial.
Avec une étape, avec un sprint à l'arrivée. Et une étape, une nouvelle fois, marquée par des chutes, Christophe.
Effectivement, des chutes au début, des chutes à l'arrivée sur une route détrempée par les averses qui sont abattues tout au long du parcours de cette cinquième étape. La première chute, la plus grave d'ailleurs de la journée, pour Nasser Bouani, le sprinter de la formation Cofidis, qui était considéré comme l'un des favoris pour l'étape d'aujourd'hui. Malheureusement, pris dans une chute collective en début d'étape, il a dû abandonner la course. En était trop pour lui après déjà une chute au championnat de France dimanche dernier. Une nouvelle chute en début de tour. Cette fois-ci, il a mis pied à terre et c'est toute l'architecture de la formation Cofidis qui s'écroule. Tous les objectifs pour cette équipe qui avait misé uniquement sur Nasser Bouani. Et puis, d'autres coureurs français ont été victimes de chutes. C'est notamment le cas de Thibaut Pinot ou encore de Brian Coquard. Sans dommage pour les deux Français, mais une nouvelle fois, Thibaut Pinot a vécu une journée très difficile aujourd'hui. Il a réussi ensuite à rallier le peloton et à rallier l'arrivée sans trop de dommages, mais les ennuis s'accumulent sur les épaules de Thibaut Pinot. La victoire est donc pour André Greipel, le gorille de Rostock. Deuxième victoire dans ce Tour de France. Les Allemands qui sont au sommet de ce Tour de France, puisque déjà 3 victoires d'étape en 5 étapes. Et puis le maillot jaune toujours sur les épaules de Tony Martin.
Merci Christophe. En direct d'Amiens, donc le classement Greipel devant Sagan et Cavendish. Arnaud Démare, le premier français aujourd'hui, termine à la 7ème place.
Je suis satisfait quand même, les jambes sont là. Malgré que voilà, avec tous les pépins qu'il y a eu aujourd'hui. Quand on voit les gamelles de partout, c'est une sacrée journée encore. Sur le sprint, j'y ai cru à un moment donné, parce que j'étais vraiment bien placé, mais c'est vrai que tout seul, j'ai fait un petit peu d'effort à certains moments, mais voilà, je sens que ça peut le faire. Ouais.
Voilà, Arnaud démarre avec Pierre-Yves Leroux, alors pourquoi pas une revanche demain. En tout cas, ça sera sans doute une arrivée au sprint entre Abbeville et Le Havre, 191 500 km au programme.
On va reparler de cette cinquième étape avec Cyril Guimard dans une petite dizaine de minutes maintenant. Roger Federer était beaucoup trop fort pour Gilles Simon à Wimbledon.
Il n'y a pas eu photo, Virginie. Simon battu 3-7-0 par le Suisse en quart de finale, 6-3, 7-5, 6-2. Le Français dominé par le numéro 2 mondial, Federer, qui retrouvera en demi-finale Andy Murray, le numéro 3 mondial, qui lui a battu 3-7-0 le Canadien Pospisil. Et puis, en ce moment, quart de finale de Richard Gasquet face à Stanislas Wawrinka. Louis Yamar, on en est où?
Eh bien, Richard Gasquet a remporté brillamment le premier set il y a quelques instants. Une première manche bouclée en 31 minutes face à un Stanislas Wawrinka qui a multiplié les fautes directes 14 au cours de la seule première manche. Mais la tendance semble s'inverser. Le deuxième set vient à peine de débuter et le Suisse a déjà réussi le break. Il mène 2-0. 30-0 sur son service.
Et on va suivre ce match tout au long de l'Intégral Tour, bien sûr.
Jour de prolongation de contrat à l'Olympique Lyonnais, c'était le thème.
Et les augmentations de salaire qui vont avec pour Nabil Fekir, Corentin Tolisso et le gardien de but Anthony Lopez. Pour Alexandre Lacazette, ça n'est pas encore fait. Mais le président Jean-Michel Aulas a déjà réussi une partie de son mercato, Édouard G, à savoir garder ses meilleurs jeunes.
Oui, avec en premier de cordée Clément Grenier, c'est dès le 11 juin dernier, plus 2 ans pour l'Ardéchois lié jusqu'en 2018 à l'OL. Et puis il y a les autres éléments brillants cette saison, mais dont il faut sécuriser l'aspect contractuel. Et si on s'affole sur la toile en interne, personne ne tremble vraiment. Un détail près, il faut souvent remettre un zéro avant la virgule, notamment pour la révélation de la saison. Nabil Fekir, dont le salaire de 20 000 euros mensuels passerait au-dessus au-dessus de la barre des 250 000. Mais Jean-Michel Aulas, le boss de l'OL, trouve cela naturel.
Il a parfaitement bien géré dans son environnement les échanges. Donc ouais, ça nous coûte un peu cher, mais on est satisfait et convaincu que c'est un investissement sur l'avenir qui va lui permettre d'être bien dans sa tête, bien dans le club, et donc que le club va être bien avec lui. Et l'important, c'est pas de faire du bien, c'est de bien le faire. Voilà.
Nabil Fekir, donc lié jusqu'en 2020, tout comme Corentin Tolisso, le milieu de terrain, mais aussi Anthony Lopez, troisième jeune élément qui arrive sur la scène d'OL TV à la mi-journée pour officialiser sa prolongation de contrat. Pour lui, c'est 4 ans supplémentaires. Anthony Lopez, tout juste rentré de vacances, qui a entendu son président Jean-Michel Aulas la semaine dernière lâcher un nom, celui de Steve Mandanda, le gardien marseillais qui pourrait devenir son remplaçant en cas de fuite. Anthony Lopez serein quand même sur la question, même avec son boss à côté de lui.
Non, ça m'a pas particulièrement vexé. C'est des négociations qui sont engagées comme ça, et voilà, c'était un moyen de pression, je pense, de la part du président pour accélérer les choses.
Voilà Martial pour son retour en Ligue des Champions. L'OL et Jean-Michel Aulas réussissent donc pour le moment leur mercato autour des jeunes prolongés avec les arrivées, on les rappelle, de Jérémy Morel et de Claudio Beauvue.
Merci Edouard, et Jean-Michel Aulas sera avec toi Virginie.
À tout à l'heure à 20h30 exactement.
Alors à Lyon on a prolongé, au PSG on a signé.
RMC, le Mercato Show.
Avec le gardien du allemand Kevin Trapp qui arrive de Francfort et qui est officiellement parisien, transfert estimé à 8 ou 9 millions d'euros, il a signé un contrat pour 5 saisons et en plus il a 25 ans aujourd'hui. Kevin Trapp à peine arrivé et déjà ses premiers mots et en français s'il vous plaît.
Je veux apprendre et je veux parler en français. Je pense que c'est très important pour parler avec l'équipe, avec le coach. Je suis très content d'être à Paris. Pour moi, Paris, c'est l'un des grands clubs du monde. On a une équipe très forte. Mon objectif est de renforcer ma nouvelle équipe. Je pense que c'est très important. Ici, c'est Paris. Hein? Ici, c'est Paris.
Voilà, Kevin Trapp, qui parle bien français déjà. Hein. C'est pas mal.
Il le fait mieux que Zlatan, c'est vrai. Hein.
Alors, côté départ, on s'active toujours autour du cas Yohan Cabaye, Mohamed Bouafsi.
Oui, Yohan Cabaye est tout prêt de faire son retour en Angleterre. Le Paris Saint-Germain et Crystal Palace ont trouvé un accord avoisinant 15 millions d'euros pour l'international français. Le joueur doit désormais trouver un accord avec le club anglais, ce qui ne devrait pas poser de problème. À Londres, Cabaye retrouvait son ancien entraîneur à Newcastle, son homme de confiance, Alan Pardieu. Avec le départ prévu de Cabaye, Paris s'est mis à la recherche d'un milieu de terrain. Plusieurs profils sont étudiés, comme Miralem Pjanic de la Roma ou Arturo Vidal de la Juventus Turin. Mais la priorité des priorités reste Angel Di Maria, le milieu offensif de Manchester United. Le PSG devrait faire une offre avoisinant 60 millions d'euros pour le joueur. Di Maria serait très intéressé par le projet parisien.
Ça bosse à Marcoussi, ça bosse l'équipe de France de rugby qui prépare la Coupe du Monde.
Et tous les joueurs ne vivent pas cette période de la même façon. Hier, on avait Dimitri Zarzewski qui nous disait adorer ça, la préparation physique et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, une vision différente, celle du capitaine du 15 de France, Thierry Dussautoir.
Je déteste ça, mais après, je sais que c'est un mal nécessaire, donc je le fais. Après, c'est sûr que si on pouvait préparer une saison, être en forme en regardant la télé, bouffant des chips, on le ferait tous. Hein. Mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut aussi accepter de souffrir, d'aller dans ses limites aussi, pour être mieux lors des matchs.
Thierry Dussautoir avec Maxime Rollin.
François Trinduc doit-il être le buteur du 15 de France pour la Coupe du Monde? Le demi d'ouverture sera notre invité avant 19h. Et si le triathlon des Jeux Olympiques de 2024 se déroulait dans la Seine?
En tout cas, c'est ce que souhaite la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle l'a annoncé ce matin sur RMC BFM TV. Pour un triathlon dans la Seine, plusieurs conditions déjà. Avoir les Jeux, bien sûr, mais aussi assainir l'eau de la Seine. Il y a encore du temps, mais il y a du boulot. Qu'en pense Tony Estanguet, membre français du CIO et tête d'affiche de la candidature parisienne?
Le triathlon de Paris a déjà été organisé à la Tour Eiffel et c'était un grand succès à l'époque. Alors depuis, l'eau de la Seine s'est un petit peu dégradée, donc ça n'a plus été possible sur les dernières éditions. Mais moi, je me souviens avoir donné le départ en 2012 du triathlon de Paris dans la Seine. Donc c'est notre objectif effectivement de travailler avec les services de la ville et de l'État pour faire en sorte que on mette un plan en œuvre pour que d'ici 2024, on rétablisse une eau de Seine de meilleure qualité pour qu'on puisse effectivement vraiment faire cette épreuve sur ce lieu qui est quand même assez magique.
Tony Estanguet avec Mathieu Dalzovo, puis un petit point donc sur le quart de finale en ce moment à Wimbledon entre Richard Gasquet et Stanislas Wawrinka. Gasquet qui a remporté la première manche face aux Suisses, mais qui est mené 3-1 dans la deuxième.
Wawrinka qui a donc fait le break dans le deuxième set. On continue à suivre ce match pendant toute l'intégrale tour sur RMC. Dans un instant, c'est Cyril Guimard qui est avec nous à l'arrivée de la cinquième étape du Tour de France. Vous lui posez toutes vos questions au 32-16, mais également sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Wimbledon, on en a parlé, puis on recevra tout à l'heure François Trinduc, donc avant 19h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Sans info, à l'époque, j'ai taquiné la pédale. C'est vrai.
Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France.
Bienvenue à la fête, camarade.
Virginie Fulpin.
Il est 18h17, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. On va être à deux endroits à la fois à Amiens avec Cyril Guimard qu'on rejoint dans un instant. On va faire un tour par Londres, Wimbledon exactement, Eric Salio. Ça avait bien commencé pour Richard Gasquet, c'est un petit peu plus compliqué dans le deuxième set.
Allons, ça va mieux là, puisqu'il vient de débreaker à l'instant dans
le
deuxième. Tout va bien, donc la situation est sous contrôle. 6-4 Gasquet dans le premier set, avec beaucoup d'erreurs de Stan Wawrinka, 14 exactement. Petit moment de relâchement du Français qui a perdu sa mise en jeu un petit peu bêtement avec notamment une volée de coup droit qui était enfantine, mais à l'instant Richard Gasquet vient de combler son retard. Wawrinka fait la course en tête 3-2, mais c'est le Français qui va servir dans quelques instants, très à l'aise sur le gazon du court numéro 1, alors qu'on sent que Stan, bah, c'est pas sa surface préférée. Il tente d'imposer sa puissance, mais pour l'instant il se heurte à un Gasquet très opportuniste, très intelligent tactiquement.
On va suivre évidemment ce quart de finale entre Richard Gasquet et Stanislas Wawrinka avec toi Eric, avec Sarah Pitkowski qui va nous rejoindre dans un instant sur RMC. Tu nous interromps quand tu veux hein, si se passe quelque chose d'important à Wimbledon. Cyril Guimard lui est à Amiens. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Alors à l'arrivée de cette cinquième étape, une arrivée au sprint, et qui dit sprint, cette année visiblement qui dit sprint dit victoire d'André Greipel. Hein. Deux sprints finaux, deux victoires de l'Allemand.
Ben oui, il y a eu que deux arrivées au sprint massives et à deux reprises, l'Allemand s'est imposé. Et j'ai presque envie de dire avec facilité. Aujourd'hui, il y avait une arrivée avec vent de face et donc il fallait pas sortir trop tôt. Il fallait rester dans les abris, bien planqué. Et au dernier moment, il est sorti de la roue de Cavendish pour l'enrhumer littéralement. Et Peter Sagan, qui lui arrivait de plus loin et encore bien plus pris dans l'aspiration et dans les abris, a presque failli venir chercher la victoire d'étape. Il fallait être patient dans le sprint d'aujourd'hui et savoir sortir au bon moment pour éviter de se faire battre.
Cyril, tu vas me dire si je me trompe, j'ai l'impression que pour le sprint, c'est un peu comme pour les buteurs au foot, c'est-à-dire que sans la confiance, on n'y arrive pas, même si on est un des meilleurs sprinteurs du monde. Enfin, je dis ça pour Cavendish et je dis ça à l'inverse pour Greipel, qui a une confiance totale. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
Oui, eh bien ça fait deux sprints où l'anglais Cavendish sort trop tôt. C'était flagrant d'ailleurs lorsque
la dernière fois
sur les routes du Pays-Bas, il est sorti trop tôt. Greipel l'a félicité, comme ça il a été bien emmené. Là aujourd'hui, il sort pratiquement à trois de front avec le Français entre autres Arnaud Demare, mais dans le vent de face, vous ne pouvez pas durer très longtemps. Et lorsque vous êtes dans l'aspiration à cette vitesse-là, c'est pratiquement 40% d'effort en moins. Et en plus, vous allez prendre votre accélération dans cette aspiration. Alors, la confiance, oui. Lorsqu'on n'a pas confiance, eh bien, on est trop nerveux, on manque de calme, on manque de sérénité. On a besoin d'aller gagner, on a envie de gagner, on a tellement envie de gagner qu'on a trop envie de gagner. On fait la petite erreur. Et lorsqu'on a déjà mis au fond, eh bien, on y va tranquillement, relâché. Et puis, on se dit, si ça marche pas, eh bien tant pis, mais en règle générale ça marche.
Ça marche beaucoup mieux comme ça. Il y avait deux Français donc à l'arrivée là dans les 10 premiers. Hein. Arnaud Demare 7e, Brian Coquard 8e. On a Yannick qui nous appelle au 32-16 pour nous parler de ces sprinteurs français. Bonsoir Yannick.
Bonsoir
à Yannick.
Et Yannick, tu es un peu déçu par les sprinteurs français?
Oui, déçu, mais surtout la question que je me pose, c'est j'ai du mal à comprendre la différence qu'il puisse y avoir au niveau du cyclisme sur piste, où là, on a des tueurs. Et j'ai pas l'impression de retrouver ça au niveau des sprinteurs dans le cyclisme classique, quoi. Et je me demandais au niveau des écoles s'il y a pas, il pourrait pas s'inspirer un peu du
de la piste.
De la piste, ouais.
Oui, alors. Il faut être très clair par rapport aux sprinteurs sur piste et par rapport aux sprinteurs sur la route. Vous savez, il y a autant de différence entre un sprinteur en athlétisme qui fait 100 mètres et un coureur de marathon qui va arriver au sprint peut-être avec un ou deux adversaires. On n'est pas du tout dans la même configuration. Mais d'un autre côté, il faut quand même savoir que le sprint sur piste, ça n'est pas le même sport. C'est le seul sport où on va avoir pratiquement autant d'entraînement qu'un haltérophile. C'est-à-dire que là, on va vraiment chercher que de la force. Donc, pour moi, c'est pas le même métier, c'est pas le même sport. C'est un sport totalement différent, avec le même outil, c'est vrai, mais on peut pas comparer du tout.
Voilà, Yannick, tu as ta réponse. Merci beaucoup d'avoir appelé le 3216. À très bientôt.
Je voulais vous remercier parce qu'on vibre bien pendant les étapes du sport. C'est vraiment sympa.
C'est grâce aux coureurs, hein, c'est pas grâce à nous.
Hein. Oh, bah, un petit peu quand même, franchement,
Cyril.
Nous
ne sommes que des témoins et des rapporteurs.
Alors Cyril, il y a un Français qui ne faisait pas partie de ce sprint final, c'est Nasser Bouhanni, puisqu'il a abandonné, encore une chute. Ça commence à devenir dur pour lui là. Hein.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Championnat de France, il y va, il tape relativement fort. On s'est posé la question d'ailleurs, au sein de son équipe, posé la question de savoir s'il devait prendre le départ ou pas. Finalement, il n'y avait rien de cassé, des bleus, des contusions. Donc on sait qu'il faut un minimum de temps pour remettre tout ça dans le bon ordre de marche. On y est arrivé parce qu'hier, il a fait un beau final. Bon, lui-même dit, j'étais un peu sec pour faire le sprint. En plus, un sprint où ça montait quand même de façon relativement importante pour un sprinter. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été vraiment dans l'allure. Malheureusement, après une heure de course, il y a eu cette chute où il avait également quatre équipiers impliqués. Et là, j'ai presque envie de dire, puisque, bon, on le sait maintenant, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de choses graves à son niveau. Je pense que la vraie fracture, elle est plutôt sur le plan psychologique. Mais c'est la chute de trop, et j'ai presque envie de dire blessé dans ses chairs, oui, mais blessé aussi sur le plan psychologique, parce que c'est pas la première sur le tour qui prend, puisque en Hollande il avait déjà été
dans la chute
sur les coups de bordure. Donc c'est la chute de trop.
Cyril, on commence à se dire quand même que là c'est pas vraiment le tour des Français, hein. On peut pas généraliser, il y en a qui marchent bien, mais bon, donc Nasser Bouhanni qui abandonne, Thibaut Pinot qui est encore tombé aujourd'hui, lui c'est pas son tour non plus.
Oui,
hein.
Mais lui de toute façon il est sans les chutes, donc il va dedans.
Ah, c'est-à-dire que c'est une volonté. Non mais
attendez, regardez où il court, il est là, ou si ça tombe, il est obligé d'y aller, quoi.
Donc c'est-à-dire que ça n'est pas de la malchance, c'est un mauvais calcul.
Aujourd'hui, c'est dans le final là où il y va, c'est pas de la malchance. De toute façon, si vous regardez bien, il était dans les 10 derniers en permanence, alors que il ne restait plus que, on va dire, la moitié du peloton. Quand vous avez des chutes, bon, attention, c'est pas des chutes graves. Hein,
non, mais enfin bon, on a déjà perdu du temps les jours d'avant, ça aide pas pour le moral, notamment.
Oui,
on en parlait.
Je crois qu'il peut plus aller frotter. Mentalement, il est plus véritable. Véritablement dedans, donc il se laisse emmener par le.
C'est-à-dire qu'il y a une faute à faire, il y va, quoi.
C'est presque ça, mais alors c'est vrai que c'est pas le tour des Français, mais vous saviez ce que nous disions sur la route du Tour depuis le départ et même avant dans les émissions de préparation du Tour de France sur RMC. On est revenu au Tour de l'an dernier où on fait deuxième et troisième, donc deux coureurs sur le podium. Et j'ai toujours dit attention, le Tour de l'an dernier, c'était un Tour particulier. On vient faire deuxième et troisième, mais n'oubliez pas, Froome est tombé, Contador est tombé, et Quintana n'était pas là. Alors on va essayer. Je disais toujours, restons les pieds sur terre, regardons les choses.
Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à dominer le cyclisme et le Tour de France tous les ans.
Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année, eh bien, Froome ne tombe pas, Contador ne tombe pas, les Français tombent, la roue a tourné.
On espère qu'elle retournera dans l'autre sens. Hein. Merci beaucoup Cyril Guimard. Tu reviens dès 19h avec Christophe Cessieux pour les débats du Tour de France. On va notamment parler de Nasser Bouhanni et de sa chute. Et nous, on va aller faire un tour à Wimbledon où Richard Gasquet est revenu à hauteur de Stanislas Wawrinka. Eric Salio.
Oui, c'est devenu beaucoup plus accroché dans cette deuxième manche. On a eu peur que Richard lâche un peu le deuxième set trop vite puisqu'il s'est trouvé mené 3-0 après avoir remporté le premier set joliment. Et là, on est à 4 partout, Virginie, dans cette deuxième manche. C'est Stan Wawrinka qui est au service. Il y a 30-15 et on note quand même que Stan a du mal à trouver ses appuis. On l'a vu glisser à plusieurs reprises. Et là, un retour fantastique de Richard Gasquet qui le met à 30-30 sur la mise en jeu de Stan Wawrinka. Je le disais, il est pas très à l'aise hein, sur gazon. C'est un taureau, on connaît
son physique. Oui, on ne peut pas gagner Roland-Garros et enchaîner avec Wimbledon non plus. Hein.
C'est un gros gabarit. Et donc il a du mal à se bouger. Et les moindres contre-pieds, ça peut être fatal pour lui, là. Service gagnant pour Stan. Donc il se procure une balle de 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Mais on sent que Richard a vraiment une belle chance d'accéder au dernier carré de ce Wimbledon.
Et on va suivre cette fin de deuxième set avec toi, Eric, dans un instant. On sera également avec François Trinduc. Le demi d'ouverture du 15 de France avant 19h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h31, c'est l'Intégral Tour jusqu'à 21h sur RMC et on est à Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Eric Salio, notre envoyé spécial à Londres, suit le quart de finale de Richard Gasquet face à Stanislas Wawrinka. On est à la fin du deuxième set et c'est un peu tendu là entre les deux joueurs. Enfin pas entre les deux joueurs, Richard Gasquet peut revenir à 5 partout.
Oui, mais Wawrinka peut aussi égaliser une manche partout puisqu'on est à 30-30. Et double faute, voilà, ça c'est le moment que je redoutais. Balle de 7 donc pour Stan Wawrinka. Et il ne faut plus dire Stanislas, Virginie, il refuse. Hein.
Ah, il refuse, on lui obéit, d'accord.
Ah, à partir du moment où il a fait toutes les démarches officielles auprès de l'ATP, c'est Stan.
Et il y a une raison à ça.
Choix tactique.
Cela dit, s'il l'a fait avant Roland-Garros, visiblement c'est efficace.
Oh, il le fait, ça date depuis 6 mois déjà. Balle de 7 donc pour Stan Wawrinka, dommage parce que Richard Gasquet était bien revenu dans cette deuxième manche. Il était mené 3-0, attention, deuxième balle, elle est dedans, petit retour, il oblige Richard à monter. Stan, oui, superbe attaque de Richard Gasquet, un revers très très puissant, très long. Et là, on a vu toutes les lacunes de Stan Wawrinka qui a voulu faire un passing de revers en opposition, en slice, mais il n'avait pas les jambes, il était en retard et donc Richard Gasquet efface ce gros danger, Virginie. 6-4 pour Gasquet, 5-4 Wawrinka, 40-1. Ce serait bien que Richard se débarrasse de ce jeu de service pour revenir dans le rail. Il y a deuxième balle de set à venir avec un revers qui sort d'un bon maître. Il est en stress, là, Richard Gasquet, depuis quelques minutes.
On sait que le mental, notamment sur ces balles-là, c'est pas forcément son fort, à Richard Gasquet. Hein.
Oui, et puis en plus c'est un cador en face, hein. C'est dur de se dire, c'est pas n'importe qui. On sait que c'est un garçon qui va profiter des moindres occasions. Richard Gasquet qui fait service volé et qui conclut joliment. Belle initiative là, le mental il a répondu présent, Virginie, parce qu'il fallait y aller au filet. La première balle n'était pas extraordinaire, hein. C'était pas du 220 km/h, mais c'était bien servi sur le revers de Stan Wawrinka, et derrière il n'y avait plus qu'une volée de coup droit à déposer dans le court qui était déserté. Donc nouvelle égalité, mais c'est quand même, ça fait beaucoup d'occases là pour le Suisse. Il faudrait absolument boucler ce jeu. Richard Gasquet qui monte, non, un coup droit dans le filet, troisième balle de 7 à venir. Il s'est piégé tout seul là, Richard. Il faudrait que le retour était un petit peu venimeux parce qu'il était juste derrière le filet, donc sur gazon ça rebondit moins qu'ailleurs et c'est un peu emplâtré sur la balle.
Mais c'est des erreurs techniques qu'il fait là, ou c'est qu'il est nerveux?
Ouais, je pense qu'il y a la nervosité. Il sait que c'est un moment important. Il sait que s'il bascule à 2-7-0, ça peut être l'autoroute du soleil. Il sait aussi que si ça revient à un set partout en face, ça va être un autre combat, un peu comme il y a deux jours face à Nick Kyrgios. Troisième balle de set, donc pour... Et voilà, double faute. Alors là, il a craqué. Il a craqué total. Deux doubles fautes dans ce jeu pour Richard Gasquet et le Suisse, donc qui recolle à une manche partout sur le court numéro 1.
Alors Eric, j'aimerais quand même qu'on parle de Richard Gasquet, parce que le gazon est une de ses surfaces préférées. Il a une science du gazon, par exemple, bien plus importante que Stanislas Wawrinka. C'est quelqu'un qui joue mieux sur gazon que Stan Wawrinka, pardon.
Ah, il a un meilleur CV. Il a un meilleur CV puisqu'il a déjà fait une demi-finale à Wimbledon. Et on s'en souvient tous, c'était après un match mythique face à Andy Roddick, qui d'ailleurs est consultant pour la BBC. C'est une grande première. Il est arrivé aujourd'hui et il fait déjà un carton avec ses analyses sans concession. Et donc oui, Richard Gasquet avait atteint les demi-finales ici, mais c'était en 2007. Ça commence à dater. Stan Wawrinka n'a jamais dépassé les quarts de finale. Mais vous savez, on voit bien que les joueurs qui sont bons à Roland ou sur dur maintenant commencent à briller sur gazon parce que la surface était ralentie, donc il n'y a plus de.
Oui, bah Rafael Nadal a déjà enchaîné victoire à Roland Garros et à Wimbledon.
C'est l'exemple le plus frappant. Rafa Nadal, on ne pensait pas à ses débuts qu'il remporterait deux titres à Wimbledon, notamment avec une finale extraordinaire face à Roger Federer. Donc maintenant, c'est un gazon tout-terrain. Tout le monde peut y trouver son compte. Il suffit pas de servir comme Kevin Anderson ou comme Karlovic. Il suffit d'être bon techniquement, d'être opportuniste, d'être calme. Et si vous avez toutes ces qualités, vous pouvez aller au bout du rêve.
Eric, tout à l'heure, il y avait un autre Français sur le court. C'est Gilles Simon qui était opposé à Roger Federer en quart de finale. Bon, là, ça a pas fait un pli. Hein. Federer était trop fort pour Gilles Simon.
Ouais, c'était le premier quart de finale de Gilles Simon sur le gazon. Peut-être qu'il s'est mis un peu trop de pression. En plus, c'est vrai qu'en face de lui, il y avait le maître des lieux. Et très vite, il a été mis sous l'eau parce qu'il a cédé sa mise en jeu très rapidement, trop rapidement. Il a eu une micro-chance, Virginie, c'est à la fin du deuxième, lorsqu'il est parvenu à réaliser un exploit, je pèse mes mots, parce que il a pris le service de Federer, ce que personne n'était parvenu à faire depuis le début de la quinzaine. Donc ça lui permettait de revenir à 5 jeux partout au deuxième set. Et malheureusement, derrière, il y a eu un petit phénomène de décompression. Il y a eu aussi l'orgueil du champion Federer qui a rebreaké immédiatement et qui ensuite s'est envolé donc vers une nouvelle demi-finale, la 10e demi-finale de sa carrière donc pour Roger Federer. Et je pense que bah, il était forcément déçu, hein. Gilles Simon l'écoutera peut-être à 19h,
oui,
mais il n'a pas livré le match qu'il escomptait, mais il est tombé sur un garçon qui sert remarquablement.
Le problème, c'est aussi que Gilles Simon a peut-être parlé avant de jouer, en tout cas c'est ce que lui reprochent certaines personnes, dont Jean-Paul qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Jean-Paul.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Merci de prendre mon appel. Ça tombe bien parce que j'ai lu l'équipe un peu comme tout le monde, j'imagine, aujourd'hui. Et j'ai été très étonné de la déclaration de Gilles Simon, encore une fois, je devrais dire.
Qui disait comment
battre. Il avait la solution pour le battre, pour l'embêter. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi nos joueurs français on continue à avoir ce genre d'attitude. Autant le dire après, je pense, une fois qu'on l'a battu, mais il s'enflamme, c'est-à-dire qu'il bat Berdych il fait un non-match, je sais pas pourquoi Berdych il a si mal joué, tout de suite on s'enflamme et derrière il prend une rouste. Donc c'est comme Tsonga que j'entends jouer après son match contre Karlovic, il explique qu'il a fait un très bon match, ce qui est vrai. Enfin bon, Murray il est passé quoi. Hein. Il explique qu'il peut pas jouer, qu'il peut pas faire mieux que Karlovic si cela. Mais encore une fois, il a le droit de dire que Karlovic sert mieux que lui, qu'il était plus malin sur les balles de break et que voilà. Mais on arrive, même quand ils perdent, ils n'arrivent pas à admettre que bah, c'est peut-être un peu de leur faute quand même quoi. Enfin c'est.
C'est-à-dire que tu penses que c'est un peu de la suffisance et qu'il faut d'abord jouer et ensuite éventuellement faire une déclaration.
Bah oui, ou être prudent quand on affronte Federer en quart de finale de Wimbledon, qu'il a gagné 7 fois, qui a dû faire les quarts de finale, je sais pas combien de fois de suite. Bah on y va à tâtons. Enfin, je veux dire, on évite ce genre de déclaration. On peut dire je suis en forme, j'ai bien joué contre Berdych, je me sens bien, je vais tout donner. J'ai Federer en face de moi, il m'est arrivé de le battre, voilà. Mais on évite de dire que quand on, enfin moi quand j'ai eu l'interview.
j'ai douté. Je me suis dit, mais c'est bon, Simon, il a gagné, quoi. J'avais peur pour sa dernière, presque.
Oui, mais après, c'est aussi... merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir appelé le 32-16 sur RMC. C'est aussi être un champion que de croire en ses chances. Si on ne croit pas en ses chances, ça ne sert à rien d'être en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc, ça fait aussi partie des petites déclarations qui peuvent faire leur différence. Moi, je ne sais pas si on peut véritablement en vouloir à Gilles Simon pour cette déclaration. Hein. Surtout que ce n'est pas vraiment le genre à fanfaronner très, très souvent, Eric, Gilles Simon.
Ah, Gilles Simon a une grande confiance en lui.
Oui, mais bon, enfin, il va pas dire je vais le battre. Il dit je sais comment on fait maintenant. Ça veut pas dire je vais le battre.
Bien sûr, non, mais il a déjà battu deux fois Federer.
Sur sept rencontres. Hein.
Ouais, il a poussé deux fois au 5-7 en grand chelem, donc c'est pas rien quand même. Hein. Il y en a peu qui peuvent dire ça. Maintenant, il a dit ça sur une forme d'euphorie peut-être, parce qu'effectivement, quand on l'avait vu en conf après Berdych, il avait la feuille de match sous le nez, il disait, si on m'avait dit que je collerais 6-3, 6-3, 6-2 à Berdych, je l'aurais pas cru et j'aurais signé tout de suite. C'est vrai aussi, et ça, Gilles, peut-être la... Il l'a peut-être pas noté, mais Berdych, c'était pas du grand Berdych. Il avait un petit problème,
ouais, il était un petit peu blessé.
Il a joué avec, à mon avis, petite entorse. C'est pas évident sur gazon. Mais Gilles, c'est aussi ce qui fait sa force. Parce que Gilles, il rend 20 kilos à tout le monde, il rend 20 centimètres à tout le monde. Enfin, j'exagère, mais avec son gabarit, c'est
dur de faire
sa place.
Oui, si en plus il
n'avait
pas de mental, ce serait compliqué.
Exactement.
Oui.
S'il a été numéro 6 mondial, c'est parce qu'il a un mental fantastique. C'est parce que il pousse les autres à bout, parce que c'est un tacticien hors pair. Il a un physique extraordinaire. Alors effectivement, il rentre sur le court en se disant je vais dégommer Federer. Bon, il a pris une leçon de tennis, tout simplement.
Bon, il a pas dit non plus exactement je vais dégommer Federer.
Non, mais c'est ce que l'auditeur semblait dire.
Oui, non.
Je suis étonné parce que nous, il nous l'a pas présenté comme ça. Ouais. Quand on l'a vu en radio, il nous l'a pas présenté comme ça. Il dit, il a juste constaté que Federer ne gagnait plus à Wimbledon depuis quelques années et que donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui. Voilà, des joueurs...
Eric, on va continuer à suivre évidemment le match de Richard Gasquet sur RMC avec toi, avec Sarah Pitkowski qui vient d'entrer dans le studio. Salut Sarah.
Salut, bonsoir.
Alors Richard Gasquet qui en est au début du troisième set, hein, un set partout on le rappelle, entre le français et Stan Wawrinka, le suisse. Pendant ce temps-là, Novak Djokovic a une balle pour mener 1-0 face à Marin Cilic. C'est ça très rapidement Eric?
Alors je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai le match sous le nez, mais j'ai pas 7-0, voilà, 6-4 pour Novak Djokovic, parce qu'on n'a pas le tableau d'affichage de notre cabine RMC, c'est quand même extraordinaire.
Ah, c'est bon, à voilà, coup du nouveau toit. 6-4 pour Novak Djokovic, qui pourrait être le prochain adversaire, donc, de Richard Gasquet. Merci à tous les deux, on vous retrouve dans un instant. Vous savez qu'on prépare aussi activement la Coupe du Monde de rugby sur RMC. François Trinduc doit-il être le buteur du 15 de France pour le Mondial? L'ouvreur est notre invité dans deux minutes.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h46 sur RMC, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h. On va parler de la Coupe du Monde de rugby avec notre invité François Trinduc, mais on va d'abord repasser par Wimbledon. Eric Salio, on suit ce quart de finale entre Stan Wawrinka et Richard Gasquet. Où en est-on?
Une manche partout entre les deux joueurs, 6-4 Gasquet, 6-4 Wawrinka, 2-1 dans le troisième set pour le joueur suisse, mais c'est Richard Gasquet qui est au service, il n'y a pas de break encore.
Sarah Pitkowski nous a donc rejoint au studio. Sarah,
oui, Virginie.
Sarah, donc Gilles Simon a été éliminé par Roger Federer. Est-ce qu'on peut croire qu'on va avoir un Français en demi-finale? En l'occurrence, Richard Gasquet.
Ah bah j'espère qu'on va le croire. On va le croire. C'est partout. Forcément qu'on peut y croire. Après, regarde la physionomie du match. Il est vrai que dans la première manche, Richard fait son match, mais il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a quand même des statistiques qui sont parlantes pour Wawrinka. Il n'était pas trop là, il a quand même eu un ratio de points fautes trop déficitaire. Il était quand même très loin des 50% de première balle, donc il lui manquait les bases pour jouer à la régulière face à Richard. On sent que le Suisse est en train de monter en puissance.
D'ailleurs,
donc,
on voit qu'il sert beaucoup plus le point qu'en début de en début de match.
Donc,
ça veut dire qu'il se remotive.
Donc, effectivement, Richard en a bien profité au début. Il faut maintenant qu'il courbe le dos et qu'il tienne le choc parce que Wawrinka est vraiment en train de monter en puissance.
On continue à suivre ce quart de finale entre Richard Gasquet et Stan Wawrinka à Wimbledon. Et pour l'instant, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec la Coupe du Monde de rugby.
RMC. Rugby 2015.
Et François Trinduc est notre invité en direct de Marcoussis. Bonsoir François.
Bonsoir.
Demi d'ouverture de Montpellier et du 15 de France. Bon, ça fait un petit peu plus de deux jours que vous êtes à Marcoussis. Maintenant, il paraît que vous êtes là pour souffrir. Donc déjà, est-ce que vous souffrez?
Oui, on est bien parti. Effectivement, on va souffrir pendant 2 mois et pendant 2 jours, on a déjà bien souffert. Donc, on accumule les journées d'entraînement à haute intensité. Donc, voilà, c'est bien. On est content d'en souffrir et d'être là. Mais voilà, ça va être dur pendant 2 mois. On va bien se préparer individuellement, collectivement, essayer de créer beaucoup de cohésion et un bel état d'esprit pour cette Coupe du Monde.
Donc là, vous faites surtout du physique. Ça tire un peu déjà, là, au bout de 2 jours?
Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de physique, on court beaucoup de musculation aussi. Donc voilà, l'enchaînement de ces entraînements font que c'est hard.
Vous avez vu très euphorique dans une vidéo que vous aviez postée sur les réseaux sociaux au moment de votre convocation. Donc là, vous souriez toujours ou ça grimace un petit peu plus?
La joie, l'excitation est toujours là, même si je me suis bien remis au boulot depuis cette journée d'annonce. Donc voilà, la joie est toujours là, même si les entraînements sont durs et longs.
Alors, cette convocation, vous l'avez prise comment? Comme un soulagement? On sait que vous avez été blessé, vous avez eu pas mal de mois de galère. Donc, c'était, le soulagement, l'euphorie?
Voilà, c'est un vrai soulagement, une vraie libération, parce qu'après cette année, cette saison un peu galère pour moi avec cette blessure, cette fracture du tibia, j'ai connu des moments de solitude, de doute, et voilà, je voyais la Coupe du Monde pour moi s'éloigner, alors que c'était un réel objectif pour moi. Donc de pouvoir valider tout ce travail et toutes ces galères que j'ai pu connaître, voilà, ça a été un vrai soulagement et une vraie libération. Donc tout le stress emmagasiné depuis quelques années, tout est ressorti ce jour-là.
Mais vous vous y attendiez quand même à cette convocation ou vous n'y croyez plus trop?
Moi, j'y croyais dur comme fer. Je m'entraînais dur. Tous les matins, je me levais avec cet objectif de Coupe du Monde. Mon retour avec Montpellier en club pour cette fin de saison, c'était vraiment dans l'objectif de faire une bonne fin de saison pour me montrer et prouver que j'avais bien récupéré de cette blessure-là. Donc, j'y croyais dur comme fer, mais c'était pas fait. Et voilà, les pourcentages ou les statistiques pas en ma faveur, donc c'était encore plus stressant.
Oui, parce que vous parlez de statistiques, c'est vrai que votre dernière sélection en bleu remonte à plus d'un an. J'imagine qu'il y a des moments où vous avez douté.
Ben forcément, on passe par des moments de doute, de remise en question, et c'est aussi ça qui nous permet d'avancer, de s'entraîner encore plus dur et savoir pourquoi on s'entraîne dur. Donc voilà, en tout cas, j'ai envie de regarder devant et puis laisser le passé derrière. J'ai cette préparation à faire et à jouer ma carte à fond et tout donner pour avoir encore moins de regrets.
C'est l'intégrale Tour sur RMC. On est en ligne avec François Trinduc de Marcoussis. François, vous êtes 36 à Marcoussis, 31 iront en Angleterre. Il y a pas mal de concurrence à votre poste de demi d'ouverture. Comment on la vit, cette différence, cette concurrence?
Ben forcément, c'est la loi un peu de l'équipe de France avec beaucoup de concurrence. Donc on essaye de passer outre quelque part. C'est quelque chose que tous les joueurs ont en tête. Il va y avoir 5 joueurs qui vont malheureusement quitter l'aventure au mois d'août. Mais voilà, on est des grandes personnes, des professionnels et des compétiteurs, donc ça n'empêche en rien de créer un très bon état d'esprit, beaucoup de cohésion dans le groupe, parce que ça va être une chose indispensable pour la Coupe du Monde. Donc voilà, créer comme un club, beaucoup de liens d'amitié.
Et comment vous comptez faire la différence, vous, à votre poste?
C'est compliqué. C'est vrai que j'essaye à tous les entraînements, à toutes les séances, de donner le meilleur de moi-même, de progresser, d'être prêt individuellement et prouver que je peux participer à cette Coupe du Monde.
Alors, on vous a souvent dit dans votre carrière que vous aviez un fort caractère. Vous en avez marre d'entendre ça? C'est fini? Comment vous le vivez?
Ça dépend comment on le dit. Fort caractère, j'ai forcément un peu de caractère, parce que voilà, ça fait maintenant 8 ans que je suis en équipe de France, avec des allées et venues forcément, et je connais pas une carrière linéaire en équipe nationale. C'est quelque chose d'encore plus remarquable pour les joueurs qui arrivent à vivre une carrière linéaire et qui arrivent à avoir des sélections très régulièrement. Donc ça, c'est, je leur tire mon chapeau à eux déjà. Et puis moi, non, c'est que voilà, c'est un poste important avec beaucoup de responsabilités, forcément beaucoup de travail et d'expérience à avoir.
Mais justement, ce caractère-là, vous pouvez en faire une force aussi.
Mais quelque part, c'est ma force, puisque quand on me dit que je suis aux oubliettes ou que je fais des contre-performances ou que je suis blessé et que je ferai jamais la Coupe du Monde, voilà, grâce à mon caractère, je lâche rien et c'est là où j'ai du caractère. C'est que malgré les statistiques, tout le monde m'annonçait, voilà, pas partant pour la Coupe du Monde, j'ai réussi quand même à créer une petite surprise en étant présent dans ce groupe de 36 joueurs pour la préparation.
Vous avez de bons rapports avec Philippe Saint-André. Comment ça se passe au quotidien là, à Marcoussis?
Ben très bien, très très bien. Pour l'instant, on n'a pas encore attaqué le rugby, mais on crée à travers des réunions, des échanges ou même voilà des journées. Beaucoup, ben, on essaye de créer du lien entre les joueurs pour que voilà il y ait beaucoup de cohésion comme dans un club, quoi.
Alors, vous nous avez dit, vous faites beaucoup de physique, là, en ce moment. Je crois qu'on a entendu les chiffres, c'est à peu près 70% de physique, 30% de non-physique, dont du rugby, un peu, quand même. Est-ce que vous dites pas que c'est pas assez et que, bon, bah, il y a d'autres sélections qui se préparent autrement? Est-ce que vous aimeriez jouer un petit peu plus au rugby?
On aura le temps de jouer au rugby, mais c'est vrai qu'on va attaquer le rugby très prochainement et puis, il faut quand même avoir une caisse et être prêt physiquement. Donc après, je sais pas ce que font les autres nations, mais en tout cas, nous on se prépare de la sorte. C'est vrai que les préparateurs physiques nous ont programmé quelque chose de carré et je pense qu'on peut leur faire confiance.
Si on dit François Trinduc, le buteur du 15 de France, ça vous va comme définition? C'est ça que vous voulez être là pour la Coupe du Monde?
Ben c'est l'objectif pour moi, donc je m'entraîne pour être déjà participé à la Coupe du Monde, et puis j'ai jamais lâché le jeu au pied, le tir au but, depuis ma rééducation. Avant que je me blesse, j'étais voilà le buteur numéro 1 de Montpellier, avec ce prestage avec l'équipe de France pour la tournée de novembre. Malheureusement, je me blesse au mauvais moment, avant la tournée, donc voilà. J'ai toujours ce niveau et cet objectif en tête, et le retrouver rapidement.
Juste une dernière question, François Trinduc. Vous êtes parti pour un tunnel, là, parce que c'est quand même très long, la préparation. Ensuite, la Coupe du Monde, c'est long aussi. On se ménage des moments de pause. Vous rigolez un peu, Marcoussis? Qu'est-ce que vous avez comme activité extrascolaire, j'ai envie de dire?
Non, il y a des activités. C'est vrai qu'il y a des blocs d'entraînement de 2 jours et demi. Et puis, voilà, des activités ludiques ou physiques pour créer de la cohésion et un vrai état d'esprit, donc à travers, voilà, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, parce que les activités de cohésion sont secrètes pour l'instant, donc voilà, on va avoir la chance de découvrir des activités pour créer du lien et apprendre à se connaître en tant que joueur, mais aussi en tant que comme.
Ça sent un peu le stage commando, là, ce qui va se passer, non?
Vous forcément, redoutez, oui, on s'attend à des réveils difficiles et des activités dures.
Merci beaucoup François Trinduc d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégrale Tour sur RMC. Bon courage pour cette
Merci.
Préparation très physique pour l'instant et pour cette Coupe du Monde qui est dans 73 jours. Je sais pas, vous comptez déjà ou pas?
Non, pour l'instant non.
Merci beaucoup François Trinduc, à très bientôt sur l'antenne d'RMC. Et on va tout de suite repartir à Wimbledon. Eric Salio avec une mauvaise nouvelle dans le troisième set pour Richard Gasquet.
Oui, Richard Gasquet est en retard dans cette troisième manche puisque Stan Wawrinka s'est détaché 4-2. Il y a un 7 partout, on rappelle.
Sarah, est-ce que ça se rattrape? Est-ce que Richard Gasquet, vous le sentez un peu en train de subir là depuis une bonne demi-heure maintenant?
Oui, forcément il est en train de subir, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique. C'est comme je disais, Wawrinka est véritablement monté en puissance. Et je pense que pour cette là, ça semble quand même très très mal engagé. Dans quelques instants, ça va peut-être faire 5-2. Voilà, il va falloir vite évacuer la perte de cette troisième manche pour tenter quelque chose. Il faut tenter quelque chose sur la quatrième. Peut-être essayer de forcer à aller un petit peu plus au filet. Parce que s'il laisse Wawrinka faire le jeu comme il est en train de faire, il a des pourcentages de premier service qui sont encore perfectibles, hein. Il est qu'à 50%. Donc si en plus Stan
passe encore la vitesse supérieure, j'ai peur que ça aille très vite. Très donc, il faut qu'il y aille au bluff, il faut tenter quelque chose, surtout sur le gazon quand on sait que les coups sont c'est des balles de match à chaque frappe quoi.
Merci beaucoup Sarah Pitkowski, Eric Salio. On continue à suivre ce quart de finale entre Richard Gasquet et Stan Wawrinka. Lui aussi il y va au bluff, c'est Christophe Cessieux à Amiens.
Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Ouais, bonsoir. Le bluff, oui, le bluff et des gamelles aussi aujourd'hui sur cette cinquième étape du Tour de France avec l'arrivée à Arras, l'abandon de Bouhanni, les chutes de Pinot et la victoire d'André Greipel. On va revenir sur tout cela avec toute l'équipe, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Ce sera juste après les infos de 19h et juste après le journal des sports. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.